football. Avec Félix Francoeur-Beaulieu.
Salut Félix.
Salut Catherine.
Hey Félix, avant qu'on parle justement de ce qui s'en vient en fin de semaine, tu peux nous parler ce matin des Jaguars de Jacksonville?
Ben oui, puisque les Jaguars de Jacksonville, écoute, je pose la question. Champion d'ici 5 ans au flop total. Pour quelle raison? Parce que hier, les Jaguars ont embauché Urban Meyer comme entraîneur-chef. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a une fiche de 187 victoires, 32 défaites dans la NCAA. Il y a 3 championnats nationaux, 2 avec l'Université de la Floride, 1 avec l'Université Ohio State. Ça, c'est toute une embauche, à mon sens.
Ouais. Mm-hmm.
Il possède le premier choix au prochain repêchage en Trevor Lawrence, qui devrait être un excellent carrière dans la NFL. Ils ont 4 choix au total dans le top 50 du prochain repêchage, donc des jeunes, on va aller en chercher. Ils ont 75 millions de dollars de disponibles sur la masse salariale, donc ils ont l'argent en masse pour aller chercher des gros joueurs à des positions clés, des positions qui ont des gros trous présentement dans leur alignement. Donc, ils ont les outils nécessaires pour se bâtir une excellente équipe.
Okay.
Mais, est-ce que ça va se concrétiser? C'est ça la question qu'il faut se poser. J'ai l'impression qu'il va falloir être patient parce que Lawrence, il n'a pas encore joué un match dans la NFL, puis les quarts arrière, quand il arrive dans la NFL, la première saison, c'est pas nécessairement tout le temps la plus facile.
Non, c'est sûr.
J'ai dit, Urban Meyer, ça a été un excellent entraîneur dans la NCAA. Nick Saban, c'est un mythique coach dans la NCAA. Il y a eu un passage dans la NFL avec les Dolphins de Miami. Fiche de 15 victoires, 17 défaites. Donc, le succès dans la NCAA ne te garantit pas du succès dans la NFL. Donc, okay, ça, j'ai vraiment hâte de voir.
Mais je me trompe-tu ou t'as l'air sceptique à l'effet qu'il pourrait connaître du succès d'ici 5 ans?
Je suis un petit peu sceptique. C'est sûr que là, les morceaux sont en train de bien se placer pour faire de cette équipe-là une équipe forte. Mais je l'ai déjà dit, en début de saison, pour qu'une équipe de football soit bonne, oui, ça te prend des bons morceaux, mais il faut qu'il y ait de la cohésion dans tes bons morceaux.
Ouais, y a ça.
Si t'as tous les morceaux du casse-tête ne s'emboîtent pas ensemble, ça va pas bien.
Non, ça c'est sûr.
Puis pour compléter sur ce que Félix dit, Catherine, oui, rappelons-nous aussi Burrow, je m'excuse, son nom m'échappe, Joe Burrow, exactement.
Joe Burrow,
quand il est arrivé avec les Bengals, au niveau des autres membres de l'équipe, il y avait quelques effectifs déficients, tu sais. Il y avait des choses qui ne marchaient pas. Alors souvent non plus, c'est pas de se dire, on va se fier que sur le corps arrière.
Non,
parce que oui, c'est bien beau, mais on peut pas mettre tout le poids de l'équipe sur ses épaules non plus.
Puis justement, rapidement, ce que les Jags vont devoir faire, c'est apprendre de l'erreur des Bengals, c'est-à-dire avec l'argent qu'ils ont sur la masse salariale, au moins prendre un bon 30-35 millions pour se bâtir une bonne ligne offensive, pour protéger Trevor Lawrence l'année prochaine puis pendant longtemps.
OK. Hey, messieurs, juste je vous entendre sur une chose avant d'enchaîner avec les matchs de la fin de semaine. Laurent Duvernay-Tardif qui veut revenir au football.
Ouais.
L'année prochaine, là, il veut revenir. Il revient-tu automatiquement avec les Chiefs? Il y arrive quoi?
Ben, durant le temps des fêtes, on a parlé avec son agent, Sacha Gavani.
Okay.
Ce qu'il nous a dit, c'est que cette année qu'il n'a pas joué, c'est reporté d'un an. Donc, techniquement, il est encore sous contrat avec les Chiefs. Rendu là, ça va être à lui, pendant le camp d'entraînement, de retourner chercher son poste sur la ligne offensive avec les Chiefs. Parce que cette année, on l'a vu que même s'il n'était pas là, les Chiefs ont été une puissance. Et ils vont probablement être une puissance encore en fin de semaine.
OK. Alors, parfait. Parle-nous donc justement de ces matchs à surveiller en fin de semaine.
Le crunch dans fin de semaine, Catherine. Demain, 16h35, ça commence pour les matchs de division dans les séries éliminatoires. Rams de Los Angeles, classé numéro 6, contre Packers de Green Bay, classé numéro 1. On parle de l'attaque numéro 1, celle des Packers, contre la défensive numéro 1, celle des Rams. Ça, c'est un match, honnêtement, que je m'attendais pas de voir en série, parce que la semaine passée, j'étais pas mal sûr que les Seahawks allaient battre les Rams.
Ouais.
Finalement, les Rams ont surpris les Seahawks avec Jared Goff, qui est notamment revenu qui est revenu au jeu, puisqu'il avait manqué une rencontre à cause d'une blessure au pouce. Donc ça, honnêtement, c'est le match que j'ai le plus de difficultés à me positionner. Mais j'ai vraiment l'impression que les Packers vont remporter ce match-là parce qu'Aaron Rodgers, cette année, c'est un gars qui est en mission.
OK.
Moi, je pense la même chose que Félix. Catherine, je pense que l'offensive des Packers, qu'on pense aux Devontae Adams, Aaron Jones et autres, vont être plus forts que la défensive des Rams.
Ouais.
J'ai hâte de voir. Je pense que ça va être serré, mais qu'au bout du compte, les Packers vont l'emporter.
Mais il y a un facteur, un facteur qui va être très important dans ce match-là. C'est lundi, Catherine, je t'ai parlé d'un certain Jalen Ramsey, le demi de coin des Rams. C'est clair que le receveur Devontae Adams qui a marqué quasiment 20 touchés par la passe cette année, Jalen Ramsey, il va l'avoir dans les culottes. Il va l'avoir dans les culottes tout le match. Puis si Jalen Ramsey est capable d'enlever Davante Adams du match, les Rams vont avoir une chance de gagner.
OK. Alors, on verra bien, mais moi aussi, je pense que ça va être serré. Ouais. Vous pensez quoi des chances de mes Bills samedi soir?
Écoute, Catherine, les deux équipes sont sur une série de victoires. Les Bills, 7 victoires de suite. Les Ravens, 6 victoires de suite. Mm-hmm. Le facteur qui pourrait venir faire changer, peser dans la balance pour les Bills, c'est qu'annonce la neige demain du côté de Buffalo. Okay.
Oups.
Lamar Jackson a jamais, de toute sa carrière, high school, université, NFL, a jamais joué un traître match dans la neige. Donc ça, j'ai l'impression que ça va jouer en la faveur des Bills. Ça va être quand même un match à faire attention parce que Lamar Jackson, c'est pas le plus grand passeur, mais c'est un grand coureur. S'il se rend compte que par la passe, avec la neige, ça fonctionne pas en tout, il va dire « c'est bon, écoute, on va courir ». Fait qu'il va falloir que la défensive des Bills soit prête à arrêter un Lamar Jackson qui passera pas, mais qui va courir. Mais j'ai l'impression, Catherine, que les Bills vont réussir à gagner ce match-là.
Moi, non, je vais aller de l'autre côté, moi, ce matin. Oui, c'est plate, là. Je vais pas te démoraliser avec tes Bills.
Non, je sais.
Ça m'a surpris parce qu'au dernier match, les Colts et les Bills, ça a été très serré. Et les Bills ont fini par s'en sortir, là. Mais j'ai l'impression que les Ravens vont donner plus de fil à retordre aux Bills. Ils ont une bonne défensive. Lamar Jackson, justement, va se dire, mais regarde, si l'option de la passe n'est pas disponible, aucun problème, je vais me mettre à courir. J'ai l'impression que ils vont avoir l'avantage. Peut-être pas de beaucoup, peut-être de peu, mais je pense qu'ils vont emporter ce match-là, les Ravens.
OK. Dimanche, ça commence par le match Browns-Chiefs. Est-ce que les Browns peuvent rivaliser avec les Chiefs?
Dimanche 15h05, Catherine, pour les gens qui le sauraient pas, c'est à 15h05 que ça commence habituellement, c'est à 13h. Est-ce que les Browns peuvent rivaliser avec les Chiefs? J'ai l'impression que oui. Ce que les Browns vont devoir faire, c'est, on l'a vu en fin de semaine passée contre les Steelers, ils ont pris les devants tôt dans le match, puis ont réussi à conserver leur avance. Va pas falloir qu'ils fassent attention contre les Chiefs. S'ils réussissent à prendre les devants, mettons 14-0, même 21-0 en début de match, va pas falloir qu'ils s'assoient sur leur laurier parce qu'on l'a vu l'année passée que Patrick Mahomes, un 21-0, même un 24-0, lui, ça lui fait pas peur, il est capable de remonter ça puis aller remporter ce match-là. J'ai l'impression que ça va être un bon match, mais malheureusement pour les fans des Browns, dont Stéphane Guay, qui nous écoute, qu'on salue, j'ai l'impression que les Chiefs vont l'emporter, mais ça va être un match serré.
Ah oui?
Les Browns ne seront pas humiliés dans ce match-là.
Je pense la même chose que Félix, Catherine. Je pense qu'il va y avoir deux tandems. Le tandem Nick Chubb, Kareem Hunt pour la course du côté des Browns et le tandem Travis Kelce et Tyreek Hill du côté de la passe pour les Chiefs. Mais au bout du compte, c'est le tandem des Chiefs qui vont l'emporter.
Ouais.
OK. Et en soirée, messieurs, quand même un affrontement attendu entre les Buccaneers et les Saints. Comment vous voyez ça?
Catherine, ça là, honnêtement, ce match-là, ça va tellement bien terminer la fin de semaine. Dimanche, 18h40, les Buccaneers de Tampa Bay contre les Saints de Nouvelle-Orléans. Un duel de division. Tom Brady avec les Bucs, Drew Brees avec les Saints. Ils sont affrontés déjà deux fois dans la saison. Deux victoires des Saints, 34-23 en début de saison, le 13 septembre, 38-3 le 8 novembre. Il y a une pression supplémentaire sur les épaules des Bucs. Puis ça, il y a un petit gars qui s'appelle Tom Brady qui adore ça, cette pression-là.
C'est vrai.
Victoire des Bucs dimanche soir.
Je pense la même chose, Catherine. Je pense que les Saints vont donner du fil à retordre, mais qu'au bout du compte, les Bucs vont finir par s'en sortir sur papier, mais autant sur le terrain récemment, Catherine, là, ils ont une excellente équipe. Et Tom Brady, ce que j'apprécie beaucoup de lui, c'est qu'il performe très bien sous pression. Alors j'ai l'impression que justement, là, il va réussir à accomplir ça et à remporter le match.
Okay.
C'est quasiment 100 ans d'histoire, en plus, Catherine, sur le terrain. Là, quand on prend l'âge, mais l'âge de Drew Brees et l'âge de Tom Brady...
Ça donne l'âge de Serge Allary.
Hey, d'ailleurs, Raphaël, parle-nous de cette publicité. Tu m'as envoyé la photo cette semaine. On voyait les deux corps arrière, Brady et Brees. On avait vieilli les gars, hein, c'est ça?
Oui, exactement. On leur avait mis des cheveux blancs, barbe blanche, et on les imaginait au poste de télévision Historia. Alors, vous savez, là, tout ce qui est un peu historique qui joue sur ce poste-là, eh bien là, c'était comme si on se disait ça va être à mettre dans les annales, justement, du football.
Parce que le match de la semaine passée, les Saints contre les Bears de Chicago, était présenté, entre autres, sur la chaîne... Pour les jeunes, Nicolas Dion. Donc, ils se sont dit, ben écoute, on est deux vieux, on pourrait mettre le match sur la chaîne Historia.
J'aime ça, c'est bon. OK, alors encore de l'excellent football. Par la suite, messieurs, est-ce qu'on s'en va à la semaine prochaine ou il y a un délai?
Non, c'est la semaine prochaine. Okay. Le délai, ça va être entre les finales de conférence et le Super Bowl.
Et voilà. Le Super Bowl, d'ailleurs, qui est la veille de la fin du confinement, du couvre-feu.
Bon, ouais.
Évidemment, ça se peut que ça se poursuive, là, mais je trouve ça... Il n'y aura pas trop de rassemblements au Super Bowl cette année. Rappelez-vous, l'année dernière, c'était notre dernier rassemblement avec des auditeurs.
Mm-hmm.
Bon, je pense pas que cette année, on revive ça. Je vous le confirme tout de suite. Merci, messieurs. C'est toujours le fun de parler football.
Merci.
Félix Francoeur et Raphaël Pepin. On fait une courte pause.